Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, c'est l'heure de votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangu. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous sommes à Agadez, capitale de l'Aïr, plus précisément dans les locaux de la Radio Sahara. Le thème du forum d'aujourd'hui porte sur les difficultés, les solutions relatives au traitement du cas des demandeurs d'asile à Agadez. Environ 1400 personnes vivent dans un camp du Haut Commissariat aux réfugiés à quelques kilomètres de la ville d'Agadez, majoritairement des Soudanais qui disent fuir la guerre chez eux et qui ont passé par la Libye avant de venir au Niger en 2017. Ils manifestent régulièrement à Niamey et à Agadez pour exiger l'accélération de leur procédure de réinstallation dans des pays d'accueil en Europe. Il y a quelques semaines ici à Agadez, ces demandeurs d'asile ont passé à la vitesse supérieure en brûlant les abris de leur camp qui les hébergeait. Conséquence, près de 335 d'entre eux ont été interpellés par la justice. Nous nous interrogeons ce soir sur le déroulé des événements les concernant, sur les procédures d'accord d'asile ou de statut de réfugié en République du Niger, sur les droits et devoirs de ces demandeurs d'asile et sur les pistes de solutions à envisager pour une meilleure prise en charge de leur cas. Nous avons comme invité Insar Abdourahman, qui est le coordinateur du cadre d'action pour la défense des droits humains, cadre Agadez, et M. Hamza Abdulaziz, associé principal à la protection sous délégation HCR Agadez. Nous avons également avec nous Yacouba Soukarajo, qui est le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés. Je suis Alassane Kouzé Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce forum de Studio Kalangu. Pour planter les décors, je propose qu'on ait un petit éclaircissement concernant certains concepts ou terminologies. Et je commence avec vous, M. Hamza Abdulazizou, de la sous-délégation du HCR Agadez. Quelle différence faut-il faire entre les concepts suivants? Réfugiés, refoulés, migrants et demandeurs d'asile.
Merci Alassane. Donc les terminologies que vous venez en fait d'énumérer sont pour la plupart en fait ceux qui encadre les activités de notre organisation. Donc la notion première de réfugié, qui est celle contenue dans le sigle et dans la de notre organisation, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et correspond à un des bénéficiaires, mais l'un des premiers aussi bénéficiaires de la protection internationale. Et elle s'articule autour de deux concepts qui sont différents. Donc le premier, c'est celui qui est fondé sur la Convention de Genève de 1951, qui en son article 2 définit donc la notion de réfugié. Et elle est complétée par le protocole donc de 67 qui est venu pour à lever le verrou de la période pour que la notion de réfugié puisse recouvrir. Recouvrir qui exactement? Recouvrir, on dit, toute personne qui fuit donc son pays, le pays dont il a la nationalité, du fait d'une persécution. Donc une persécution qui peut être fondée sur sa race, sur sa nationalité, donc son appartenance à un groupe social précis, ou aussi qui fuit du fait de son opinion, qui se sent menacée, sa sécurité, sa vie ne plus selon lui donc garantie dans ce pays. Voilà, et il franchit la frontière de son pays pour aller vers un autre à la recherche de la sécurité. Donc voilà, pour lui, pour sa famille aussi, ça dépend aussi des situations. Donc de lors qu'on est sorti de son pays pour ces raisons, à la recherche de la protection, en ce moment on peut invoquer donc la situation de réfugié. Et les États ont cette responsabilité, cette obligation d'accueillir cette personne, qu'elle entre de manière régulière ou de manière irrégulière, avec des papiers, sans papiers ou même avec des faux papiers, tant que
C'est pourquoi il l'a fait se fonder sur une persécution individuelle. Donc, il doit bénéficier de la protection. Ça, c'est la convention de 51. Maintenant, nos États, les États comme le Niger, fondent la reconnaissance sur la convention de 51, mais aussi sur la convention de l'OIA de 69. Elle, la convention de l'OIA, elle vient pour élargir encore le champ.
Ajoutant quoi?
En ajoutant les personnes qui peuvent avoir fui pour des troubles généralisés ou pour une question de domination étrangère. Donc là, c'est beaucoup plus, comme vous le comprenez, collectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été soi-même individuellement persécuté, mais dès lors qu'il y a une situation de risque global dans le contexte, dans la partie du pays dans laquelle tu es, et que pour la protection, il te faut franchir une frontière, tu dois pouvoir invoquer et les États doivent te le reconnaître, le statut de réfugié.
Qu'en est-il pour les autres, voilà. Les autres,
donc, les autres notions, quand on va, par exemple, donc, celle qui la suit automatiquement, celle de demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, c'est la personne qui est dans la recherche du statut de réfugié, mais qui n'a pas encore eu une décision définitive. Quand vous prenez donc la personne, par exemple, on dit que la personne a fui, il invoque, mais il y a une reconnaissance que les États doivent donner. Donc, le temps entre la demande et la reconnaissance par le pays d'accueil, donc la personne est dans la situation de demandeur d'asile. Lorsqu'il a une décision qui est devenue définitive donc sur sa demande et qu'elle est positive, donc il est réfugié. Voilà.
Et le refoulé?
Le refoulé, c'est la personne qui est venue vers une frontière pour invoquer sa situation de réfugié. Ça veut dire, en réalité, au fond, c'est quelqu'un qui est réfugié. Mais il y a l'État vers lequel il est parti ne l'a pas accepté, n'a pas autorisé qu'il y entre. Ou bien quand il y est entré, il a été reconduit.
Alors, voilà. Est-ce que le demandeur d'asile peut être migrant?
Je pense que si on doit aller dans la terminologie générale, globale, dès lors qu'il y a un mouvement, on considère qu'il y a une situation de migration. Voilà. Mais la distinction, c'est que le réfugié, le demandeur d'asile, il est dans un mouvement forcé. Donc, il n'a pas voulu cela. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix du fait de la sécurité.
Alors, M. Hamza, je voudrais vous poser aussi cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un chiffre exact du nombre des demandeurs d'asile ici à Agadez, leur provenance et leur profil?
Actuellement, des statistiques que nous avons, donc la situation exactement de 1008 individus. Donc, nous avons à la dernière situation qui a été faite, donc nous avons 1008 personnes qui sont donc demandeurs d'asile et réfugiés aussi.
Quelle est leur provenance?
Donc, actuellement, nous avons 5 nationalités différentes, mais la principale provenance en termes de pays, c'est le Soudan. Donc les ressortissants soudanais sont la communauté la plus importante que nous avons ici au niveau d'Agadez. Voilà. Donc,
Monsieur Insar Abdulaman, quelle est votre appréciation de l'évolution du flux des demandeurs d'asile vers Agadez?
Bon, ce n'est même pas une appréciation, nous, à notre niveau. Nous, à notre niveau, ça évoque une inquiétude. Parce que d'abord, on se demande d'abord pourquoi le choix d'Agadez pour amener des réfugiés, des demandeurs d'asile qui nous ont, il y a 2 ans déjà, ils ont commencé. Pour nous, les demandeurs d'asile, on a maintes fois demandé à ce que vraiment que cette situation soit résolue. Parce que la dernière fois avant qu'ils ne brûlent leur camp, moi j'avais fait 4 jours avec eux. Et j'ai vu les pancartes qu'il brandissait. Parce que sur l'une des pancartes qui a beaucoup attiré mon attention, c'est écrit « Mieux vaut l'enfer que le camp ». Et déjà, c'est un signal. Pour des gens qui déjà manient les armes, c'est des gens qui savent manier les armes, qui viennent du Soudan, qui sont en guerre. Parce qu'on sait de quoi on parle. Parce qu'il y a 2 ans déjà, quand ils étaient arrivés, c'est des gens qui n'ont pas peur. Qui foulent nos lois aux pieds. Parce que tu envoies un enfant, ils arrachent l'argent. Et à un moment donné, il draguait violemment les petites filles du quartier.
Ça, c'était donc, déjà, il y a deux ans déjà. C'était la situation donc, avant qu'ils ne soient installés dans le camp.
Ils étaient au quartier à la jeune cadre avant. Donc, quand il y avait eu ce camp, on s'était dit, voilà, ouf, ces gens sont partis. C'est à 15 km, je pense, ou 13 km.
Bien, ouais, merci. Voilà. Monsieur Yakuba, voilà, Yakuba Soukerejou, et je le disais, directeur régional donc, de l'état civil et chargé des migrations. Quelle est aujourd'hui l'évolution du nombre de demandeurs d'asile? Est-ce que c'est en stabilisation ou il y a une vague de vagues qui continue d'arriver?
Merci, monsieur Alassane. Et ce qu'il faut dire, que depuis le pic de 2018, la situation s'est carrément stabilisée parce que les arrivées sont enregistrées à compte-gouttes. Mais avant, je voulais juste préciser quelque chose.
Oui.
Depuis le début, vous parlez de camp. En réalité, moi, ça me frise un peu. Parce qu'au niveau d'Agadez, compte tenu de la volonté de la population, nous, et au niveau de la DREC et le HCR, nous avons tout fait pour éviter le terme « camp ». Parce que le terme « camp » a une idée de durée. Or, la population a bien manifesté pour dire qu'ils ne veulent pas que ces gens-là durent ici. D'où le choix de centre humanitaire d'Agadez.
Centre humanitaire, merci, oui. La précision est importante.
D'accord, donc oui. Je disais, après le pic de 2018, les arrivées sont à compte-gouttes. À peine nous enregistrons 20 à 30 arrivées par mois, et ça aussi, ce n'est pas tous les mois, c'est quand je fais une moyenne. Et comme vous le voyez, en 2018, on était dans les 2000 et quelques, et aujourd'hui, on est à 1006. Ça veut dire qu'on peut dire que cette attraction n'est plus.
Et au sujet de l'arrivée justement des demandeurs d'asile à Agadez et de l'évolution de leur nombre ainsi que du changement des circonstances, je m'en vais vous proposer de suivre notre entretien avec le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké.
Bon, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, c'est essentiellement des citoyens soudanais qui sont arrivés massivement et soudainement à Agadez vers la fin de 2017. Puis ils ont continué à venir à Agadez. En 2017, on parlait de à peu près une centaine. En 2018, il y a eu à peu près 800. Quand ils étaient venus, ils ont évoqué la guerre, des violences, et ils ont demandé à être protégés par l'État du Niger. L'État du Niger les a reçus, la ville d'Agadez, la région d'Agadez. Toutes les autorités se sont mises pour les recevoir, faire en sorte qu'ils soient acceptés. Parce qu'ils ont des comportements, il faut le dire, qui n'étaient pas faciles à accepter. Agadez, c'est une ville tranquille, paisible, etc. Ces jeunes, ils sont majoritairement jeunes, c'est pour cela que je dis ces jeunes, ont des comportements qui nous ont un peu heurtés au début. Donc l'État a accepté de les faire installer. Le HCR a fait ériger le village, le centre humanitaire, qui est à quelques kilomètres de la ville, et on les a installés là. Il se trouve que de temps en temps, ils ont des humeurs qui nous font subir parce que pour eux, ils sont juste venus à Agadez pour être réinstallés en Europe. Cela ne dépend pas de nous. On ne peut pas nous rendre responsables de la longueur du traitement pour qu'eux soient installés en Europe.
Bien voilà, vous venez d'écouter le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloké, au sujet donc de l'arrivée massive de ces demandeurs d'asile. Monsieur Hamza Abdelazizou, associé principal à la protection à la sous-délégation HCR Agadez, quelles sont les étapes obligatoires à suivre par chaque demandeur d'asile avant d'être réfugié?
D'accord. Je pense que cette question, peut-être donc, le directeur qui est là va compléter parce qu'elle s'adresse aussi principalement à lui. Mais ce que je peux dire, la procédure d'asile, comme vous dites, elle est faite de plusieurs étapes. Mais il est nécessaire dès le début de distinguer. Nous avons la procédure de reconnaissance collective et nous avons la procédure de reconnaissance individuelle.
Et quelle est leur différence?
La différence, comme on dit, la procédure de reconnaissance collective, lorsque au moment d'un afflux, en fonction de l'importance de l'afflux et de la capacité de traitement des autorités et des services d'État ne permet pas de faire une vérification individuelle, il peut être autorisé qu'un groupe donc, d'afflux soit reconnu collectivement. C'est ce que le Niger a fait. pour les ressortissants du nord Mali, au moment donc de l'afflux, et pour les ressortissants des trois États du Nigeria, Yobe, Adamawa et Borno. Pour les citoyens maliens, donc on a ce qu'on appelle la reconnaissance prima facie, et pour les Nigériens, là, le statut provisoire. Ça veut dire dès lors que la personne est des trois États indiqués du Nigeria et qu'elle arrive au Niger, donc après juste une vérification sommaire, il est reconnu réfugié. Pour le Mali aussi, donc, il est reconnu prima facie.
Et c'est quoi prima facie?
Prima facie, c'est-à-dire quand vous venez un peu de par le nom, c'est déjà un peu de par la physionomie.
On, donc, on peut confirmer que,
voilà, donc, que la personne
est ressortissante de ce pays.
Voilà, il y a un profil là, juste pour vérifier si la personne vient de ce pays, s'il est du nord, donc en fonction du lieu qu'il a quitté. Donc là, il a le statut. Maintenant, lorsque la reconnaissance et individuel. Ça veut dire chaque dossier, chaque cas doit introduire une demande formelle qui est adressée donc au président de la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié du Niger, qui donc, et il y a des étapes. Après la demande d'asile, la personne va, il y a un premier formulaire qui est disponible, qui est rempli. Après,
Monsieur le directeur va nous donner plus de détails par rapport à ça. Mais ce que nous voulons savoir, quel pays est soumis à cette obligation de soumission par personne?
Par personne. En fait, actuellement au Niger, à part les ressortissants du nord Mali et les ressortissants des trois États du Nigeria, et ni toutes les autres catégories de personnes, c'est-à-dire pour tous les autres États. Et pour les ressortissants maliens aussi, ceux qui ne sont pas du Nord, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la zone de conflit. Et pour les ressortissants nigériens ou nigériens, ceux qui sont dans d'autres États autres que les trois, c'est la reconnaissance individuelle qui s'applique. Voilà, il faut que la personne fasse la preuve d'une persécution ou d'un problème de sécurité et son dossier doit être examiné et à la fin, il y a une décision qui intervient.
Et c'est le cas des demandeurs d'asile soudanais.
Des demandeurs d'asile soudanais, parce que quand vous le voyez vous-même, d'abord, nous ne sommes pas frontaliers du Soudan directement. Donc, tous les ressortissants soudanais qui sont arrivés ici à l'enquête d'asile sont passés soit par le Tchad, soit par la Libye. Donc, le Tchad, il y a quelques cas où ils ont même fait des procédures dans ce pays. Et ils ont évolué, soit parce qu'il y avait des problèmes de sécurité qui se sont posés, et ils ont évolué vers la Libye, où malheureusement le contexte actuel, ou le contexte qu'ils ont trouvé ne favorisait pas une installation sécurisée. Donc maintenant, ils sont redescendus vers le Niger. Et c'est à quoi on a assisté et que nous avons actuellement.
Parmi ces demandeurs d'asile, il n'y avait pas que des Soudanais. Quelles sont les autres nationalités?
Tout à l'heure, on disait qu'on avait 5 nationalités, mais il y a encore à peu près un mois de cela, on avait 16 nationalités. Mais après les événements et certaines difficultés, il y a eu des transferts qui sont intervenus. Et donc actuellement, les nationalités qui restent sont autour de 5 nationalités.
Lesquelles?
Sinon, au niveau de notre camp, nous avions les ressortissants soudanais, nous avons la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, donc la République centrafricaine. Nous avions des Pakistanais aussi, un Syrien aussi à un moment. Donc, à part, nous avons des Nigériens qui étaient ici au niveau d'Agadez. Donc, et à part ces nationalités, je pense, nous avons aussi des Algériens. Donc, un Algérien, je pense, à un moment. Donc c'est principalement
qui constituait.
Mais essentiellement les Soudanais étaient la population la plus importante. Certaines nationalités, vous allez retrouver 1, 2, 3, 5 ou 6 individus. Donc le grand lot était constitué essentiellement de ressortissants soudanais.
Nous revenons à vous, Monsieur le Directeur Yakuba Soukerejou, le directeur régional de l'état civil. Quels sont les critères que le gouvernement du Niger prend en compte pour accorder l'asile à quelqu'un, pour accorder le statut de réfugié?
Merci Alassane. Hamza le disait, au Niger, c'est la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié, la CNE, qui est chargée de se prononcer sur oui ou non l'état du Niger accorde l'asile à un demandeur ou pas. Mais pour ce qui est des critères, comme l'a dit Hamza, je vais même dire que tout réfugié ou demandeur d'asile et migrant, mais tout migrant n'est pas demandeur d'asile pour revenir au motif de départ. Donc, lorsque le demandeur d'asile répond au motif énuméré par la Convention de 51 et son protocole d'accord et la Convention de l'OIA, l'État du Niger a l'obligation de lui accorder l'asile. Toujours est-il que le choix laissé à la commission, qui est une commission composée de près de 20 membres de 3 départements ministériels, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de tutelle des questions des réfugiés, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. Maintenant, peut-être je vais vous dire quelles sont les étapes pour accéder au statut de réfugié. À l'arrivée du candidat, il est d'abord profilé par des agents qu'on appelle mobilisateurs communautaires, des ONG de sous-traitance de l'UNHCR, particulièrement APB et COPI, qui les orientent, en fait, après les avoir écoutés, ils les orientent au niveau de la DREC pour déposer leur demande, une demande écrite et signée. La demande enregistrée, maintenant il est procédé à une première écoute qu'on appelle écoute initiale pour prendre les informations principales sur le candidat. Ensuite, le candidat est placé au niveau des partenaires, le HCR, pour l'assistance en attendant l'aboutissement de son dossier. Et comme Hamza l'a précisé, je voulais préciser ici qu'il ne s'agit pas d'une discrimination vis-à-vis des Soudanais qu'au niveau d'Agadez, c'est au cas par cas, contrairement au niveau de Tillabéri et choses. Il l'avait bien dit, il y a une semaine déjà, nous avons 16 nationalités au niveau d'Agadez. Donc on n'a pas que des Soudanais. Donc il ne faut pas que les gens pensent que le traitement individuel au cas par cas des dossiers à Agadez est lié à la présence de Soudan.
Il a expliqué tout à l'heure les situations pour lesquelles, en tout cas, on passe au cas par cas et les situations dans lesquelles les zones qui sont concernées par l'acceptation par groupe.
Voilà. Donc, le candidat placé pour assistance, l'assistance, c'est le toit, l'alimentation, les soins. Maintenant, il est procédé à l'écoute DSR qui consiste à aller profondément dans l'itinéraire et l'historique du candidat. C'est ce dossier-là, ficelé, fourni, qui sera transmis à la Commission nationale
pour statuer,
oui. La Commission est nationale basée à Niamey, mais elle peut tenir des sessions de localiser dans d'autres régions de son choix. Selon l'urgence, selon la proximité de Niamey, parce qu'une vingtaine de cadres qu'il faut mobiliser, lorsque c'est très loin de Niamey, ça va être très compliqué. Bien. Donc le plus souvent, c'est Maradi, Dosso qui sont retenus comme des lieux de délocalisation.
Alors, ces demandeurs d'asile, hein, ils demandent l'accélération de la procédure de leur réinstallation dans des pays d'accueil en Europe. Ils demandent notamment à être traités comme certaines personnes, notamment certains ressortissants éthiopiens et érythréens, passés par Niamey et qui ont pu être réinstallés dans des pays européens. Monsieur Hamza Abdulazizou de la sous-délégation du HCR Agadez, sont-ils tous censés être réinstallés en Europe, ces demandeurs d'asile? Est-ce qu'il y aurait une discrimination entre eux et d'autres?
Non, ils ne sont pas censés et ils ne peuvent pas être tous réinstallés. Objectivement, en Europe, cela n'est pas du domaine du possible. Maintenant, des discriminations, il n'y en a pas aussi. Parce que les discriminations, ça s'apprécie en fonction des critères objectifs. La situation que nous avons ici au niveau d'Agadez, pour commencer, parce que la discrimination, comme vous avez énuméré le cas de certains Éthiopiens, de certains Érythréens, vous faites référence au cadre de l'ETM, le mécanisme d'évacuation d'urgence qui existe au niveau de Niamey et qui s'inscrit dans un partenariat qui intègre l'État du Niger, le HCR Libye, pour évacuer des personnes qui sont dans des situations de détention et qui ne sont plus en sécurité de la Libye pour un séjour transitoire et pour la détermination de leur statut au niveau du Niger et puis pour la recherche de place de réinstallation.
Ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs d'asile.
Ce qui n'est pas le cas des demandeurs d'asile que nous avons ici, globalement, soit les Soudanais, c'est-à-dire les 16 nationalités que nous avions il y a quelques temps et les 5 actuellement. Voilà. Eh bien, ils sont tous arrivés d'eux-mêmes. Il n'y a aucun demandeur d'asile ici, actuellement, ou un qui est reconnu réfugié, qui a été amené par le soin ou de l'État du Niger ou du HCR. Les gens sont arrivés
et ils ont été référés au ICR, soit par exemple par référencement à partir de l'OIM ou bien par les différents autres partenaires de référencement que nous avons au niveau d'Agadez. Donc, et ils ont fait des demandes d'asile que l'État apprécie. Et c'est après que l'État ait reconnu leur statut en fonction des solutions durables que nous avons et qui sont au nombre de trois, c'est-à-dire soit l'intégration locale ici au niveau d'Agadez ou le retour dans le pays en fonction du retour de la sécurité ou à défaut et quand il y a des places disponibles, le départ vers un pays tiers. Et ça, étant entendu que les places ne sont pas assez, que cela dépend seulement du pays qui offre et non du ICR ou de l'État de Niger, les places sont données pour les catégories vulnérables, les malades chroniques, les femmes, surtout les femmes seules, donc on considère qu'ils sont exposés, donc les jeunes qui sont exposés soit au recrutement ou à certains types d'exploitation. Donc, et les pays eux-mêmes maintenant, dans ce profil de vulnérabilité, les pays qui offrent aussi indiquent des profils qu'ils veulent assister. Et donc, c'est de cette manière que les départs se font. Quand vous voyez, même actuellement, on parle de plus de 1000 personnes que nous avons ici. Imaginez pouvoir trouver, c'est-à-dire un départ pour, c'est objectivement impossible. Les places viennent 2, 3, 4 ou 5 en fonction des pays et des profils et nous ne pouvons faire qu'avec.
Bien. Monsieur Insar Abdrahman, quelle est l'analyse que vous faites autour de cette question des exigences, notamment des demandeurs d'asile?
Ces gens qui sont venus d'abord, ils sont venus dans la précipitation parce que personne n'a approché la population d'Agadez pour dire qu'on va vous amener des gens, que vous allez vous occuper de ces gens ou que vous serez obligé ou... parce qu'Agadez, c'est une terre d'hospitalité. Donc, on a juste dit que voilà, c'est Agadez, le choix d'Agadez, on amène des gens, on s'en fout de la population. C'est ça.
Je pense bien que Hamza, vous venez de dire que ces gens n'ont pas été acheminés par l'État ou dans...
Non, mais attendez, l'installation même de l'UNHCR est venue comment? C'est pas parce que on a vécu toujours avec ces Soudanais, on a vécu toujours avec les Béninois, les Guinéens ici. C'est un concours de circonstances. Et quelque part, c'est même un business selon nous. C'est même un business. Il y a de l'argent quelque part qu'il faille récupérer. Et s'il faut le récupérer, il faut installer un truc tel que voilà des gens qui vont venir. Parce qu'avant, je m'en vais revenir pour vous parler du hotspot qui a été négocié par Issoufou qui... Et après, on ne sait même pas ce qui se passe. Et après, voilà, l'UNHCR vient s'installer à Agadez. Vraiment, nous, on pense qu'ici, à ce niveau, le camp qui a été choisi, c'est très bien. Mais ils l'ont brûlé. Mais il faudrait que l'UNHCR prenne, comment dirais-je, la responsabilité de reprendre ce camp. Parce qu'il faut les ramener là-bas. On ne peut pas vivre. Ces gens-là, on ne peut pas vivre. Vous avez écouté le gouverneur. Ils ont des comportements bizarres. Ce n'est pas possible. Et c'est des gens aussi qui sont des cibles potentielles parce qu'on est en situation d'insécurité ici à Agadez. Donc c'est une bombe à retardement qu'il faille désamorcer dès maintenant.
Merci. Voilà. Merci, monsieur Insar. Alors, voilà, nous entamons la deuxième partie de cette émission concernant justement l'accélération de la tournure qu'a pris la question des demandeurs d'asile soudanais. L'une des raisons de la mésentente entre les autorités et les demandeurs d'asile, c'est notamment l'incendie provoqué par ces derniers sur les 331 habitations du centre humanitaire. 290 habitations et l'infirmerie auraient été réduites en cendres. À propos, je vous propose de suivre le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké.
Ce qui s'est passé, il y a eu une accélération à partir du 16 décembre 2019. Ils ont décidé de manifester sans satisfaire aux règles de manifestation connues de chaque pays. Et ils ont fait un sit-in devant les bureaux du HCR, ce qui n'était pas normal, ce qui était illégal. On n'a pas voulu utiliser les moyens prévus pour traiter de tels cas tout de suite. On a négocié, on a sensibilisé, on a passé par divers canaux pour leur expliquer qu'ils sont en erreur, que même s'ils veulent s'exprimer, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ils se sont entêtés et on a dû utiliser les moyens de droit pour les ramener à leur village, au centre humanitaire. Malheureusement, et ce qu'ils ont fait en arrivant au centre, c'est de mettre le feu. Leur propre abri, leur propre village, qui les protège des intempéries, dont ils vont parler peut-être plus tard, ils y ont mis le feu. Donc, ils ont détruit des lieux servant d'habitation. Ils ont enfreint nos lois sur toute la ligne. On était obligé d'agir et on a interpellé ceux qui, pour nous, sont responsables de ces activités punies par la loi.
Vous venez d'écouter le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké. Monsieur Hamza Abdelazizou, en tant que représentant d'une structure qui a la charge de la protection de ces personnes, comment avez-vous vécu et géré cette situation ?
Comment nous l'avons vécu, ça a été très dur, oui, très dur de voir les images d'abord qu'on a reçues avec la fumée qui se dégageait. Et il y avait cette impression de l'œuvre que toute notre équipe et au-delà toute la représentation du ICR, de l'État, du Niger, la communauté d'Agadez, pour qu'on puisse installer ce camp, il y a eu un forum ici à Agadez. Tout le monde a été convié et il a été décidé du fait des situations qui ont été évoquées, son implantation. Des moyens importants en termes d'argent y ont été mis. Et le travail a été fait pendant presque 2 ans. Chaque jour, l'État, le ICR et ses partenaires y ont travaillé. Voir tout ça brûler, ça, vous en convenez, ça a été très dur. Mais avec tous les collègues et partenaires, nous sommes des humanitaires. Ça veut dire que nous avons l'obligation de continuer à travailler. La protection, ce n'est pas une question de mérite comportemental, c'est une question de statut. La personne, il a fui quelque chose dans son pays, il est arrivé, il faut que quelque chose vienne se mettre à la place de la protection nationale qu'il n'a pas. Donc nous devons continuer. Maintenant, ce que je voudrais, c'est-à-dire continuer comment ? Il faut distinguer. Je comprends Abdraman et je considère que nous tous, et les humanitaires, nous sommes tous des acteurs de défense des droits humains. Il y a une communauté locale qui est là. Mais même dans la communauté de réfugiés et de demandeurs d'asile, ce n'est pas tout le monde qui a manifesté. Ce n'est pas tout le monde qui a mis le feu à ces RHU. Il y en a d'autres qui ont été victimes de cet incendie. Heureusement, on n'a pas eu de mort. Donc, il ne faut pas amalgamer. L'État a fait un travail vraiment qui est à saluer, très professionnel, de distinguer ceux qui sont concernés. Parce que la police était sur le lieu, de pouvoir les écarter et de pouvoir orienter une procédure les concernant. Et M. Alassane, au-delà de l'incendie, ce qui faisait mal, c'est l'absence de protestation, de condamnation. Nous avons travaillé pour construire ce cadre-là. Il a été brûlé et à certains moments, c'était comme si c'était nous qui avions mis le feu.
Bien, monsieur Hamza, parlons des arrestations. Justement, en tout cas, vous avez dit tout à l'heure que l'État a fait un travail en identifiant les personnes concernées par cette question. Et des arrestations ont eu lieu. Plus de 300 personnes ont été arrêtées. Et justement, mercredi 29 janvier, le procureur de la République, après le tribunal de grande instance d'Agadez, a procédé à la notification de charges retenues contre ces personnes interpellées. Ainsi, après avoir écouté les demandeurs d'asile interpellés, 190 d'entre eux ont été libérés après enquête. 20 mineurs ont été mis à la disposition du juge des mineurs. 21 personnes, dont une femme, poursuivies pour attroupement sur la voie publique, rébellion et destruction de maisons par incendie. Et 173 autres poursuivis pour attroupement sur la voie publique et rébellion. Tous ont été mis sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt d'Agadez. La date du procès de ces derniers n'a pas été précisée pour le moment. Dans cette situation exceptionnelle et inédite, quelle est l'implication du SGR sur ce point précis?
Notre implication est de nous en tenir au rôle qui est le nôtre. Nous sommes là pour accompagner le premier responsable de la protection, qui est l'État du Niger, dans la fourniture de cette protection. En tenant compte, bien sûr, du contexte, comme le dit ici, nous sommes tous conscients de ce qui est vécu par la population, qui d'une certaine manière, je pense, est aussi solidaire, parce qu'ils ont très mal vécu cette situation. Mais la différence avec nous, c'est que nous connaissons ces personnes. Nous savons tous qu'il y en a beaucoup qui sont des très grands vulnérables, qui ont besoin que la protection continue. Mais je suis très à l'aise de l'entendre, que le cadre de protection doit être reconstruit, tout en tenant compte des perceptions de la communauté locale. C'est très important. Nous allons accompagner l'État, mais c'est aussi notre travail du matin de faire de l'équilibre. Nous allons aussi accompagner les réfugiés, demandeurs d'asile qui sont concernés par cette procédure. En quoi faisant ? En faisant en sorte que l'assistance juridique, l'assistance judiciaire, qui est un droit, puisse être fournie. C'est sur ça que nous travaillons depuis l'arrestation et nous en tenons à ça. sans nous permettre en aucun moment d'interférer sur les procédures qui sont en cours et que nous observons.
Merci beaucoup. Monsieur Insar Abdourahmane, comment situez-vous les responsabilités dans ce qui est arrivé?
Bon, au premier abord, nous, on se dit que c'était prévisible parce que vu l'encadrement, moi je vous dis qu'avant ces faits, j'ai fait 4 jours avec ces gens. On pouvait anticiper, en tout cas si les autorités, parce que j'étais sur les réseaux sociaux 4 jours d'Iran et j'alertais et tout le monde ça partageait, c'est pas passé inaperçu. Parce que quand quelqu'un te brandit des pancartes, mieux vaut l'enfer que le camp, que vous venez manu militari vouloir les ramener là-bas. C'était prévisible. Moi, ils ne m'ont pas étonné quand ils ont brûlé ces
trucs. On aurait pu faire autrement.
On aurait pris ce temps-là pour anticiper.
Monsieur Insar, pour terminer, en tout cas autour de cette question, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez être, en tout cas, la meilleure option à envisager pour une bonne prise en charge de ces cas, pour que les différentes parties, notamment la population, ces demandeurs d'asile, que chacun puisse rentrer dans ses droits et qu'on ne puisse pas revivre cette situation?
Non, mais qu'est-ce qui a fait ça en fait? C'est la lenteur des traitements des dossiers. Parce que ces gens-là, ils disent que ça fait 2 ans qu'ils attendent ou 3 ans. Certains disent 2 ans. Moi, j'ai causé avec beaucoup d'entre eux qui ne comprennent même pas. Bon, je ne sais pas si c'est pas... Parce qu'ils nous ont vus, parce qu'ils se sont portés en victimes. Mais quand même, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne comprennent plus rien. C'est très lent, la procédure est trop lente et il n'y a rien. Ils ne savent pas
donc
ce qui
vous,
se passe.
Donc pour vous, s'il faut donc, agir, il faut agir sur cette procédure.
L'INSCR est là, l'État nigérien est là. Il faut accélérer la procédure et puis voilà, que tout le monde se retrouve dans ses droits.
Monsieur Yacouba Soukerejo, directeur régional de l'État civil, qu'est-ce qui est possible de faire à votre niveau pour l'accélération du traitement des dossiers?
D'accord, merci Alassane. Mais avant, j'aimerais un peu préciser à mon ami Insar que la procédure n'est pas du tout lente à Agadez. Au contraire, à mon avis, on part même à une vitesse de TGV. Je vais vous dire quelque chose. Nous l'avons expliqué un peu avant, c'est un traitement au cas par cas. Maintenant, en 6 mois, avec un seul agent, nous avons pu traiter 427 dossiers qui sont passés devant la session de Tillabéri et l'association de Dosso. Donc moi, je pense que vous pouvez demander un peu partout ailleurs les expériences en Europe, en Afrique. Avec ce rythme-là, la procédure n'est pas du tout lente. Les Soudanais qui ont manifesté, ils l'ont dit clairement. Ce n'est pas un problème de prise en charge, ce n'est pas un problème d'alimentation, ce n'est pas un problème de logement, ce n'est pas un problème de soins, encore moins un problème de lenteur DSR. Mais ils ont dans leur tête qu'une fois à Agadez, l'État ou le HCR ont l'obligation de les réinstaller. C'est tout leur problème en Europe. Ils l'ont écrit sur les banquettes aussi, qu'ils ne veulent rien de ce pays. Donc, ce n'est pas un problème de protection, mais ils sont venus avec une idée préconçue qui est une fiction dans leur tête, qui est irréalisable parce que Hamza l'a expliqué, c'est les pays qui accueillent, qui disent « je vais accueillir tel profil ». L'État ne peut pas forcer la main à un autre pays d'accueillir. Encore moins le HCR qui n'a même pas de territoire. Donc ces gens-là, ils ont vraiment leur a priori par rapport à la réinstallation et c'est tout ce qui leur préoccupe. Ils sont allés au dernier jour de leur mouvement pour dire que non, c'est le climat d'Agadez même qui ne leur convient pas, s'il vous plaît.
Alors aujourd'hui, monsieur le directeur,
pendant ce temps, nous payons le pot cassé. Hein.
Bien, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut, vous à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes, en tout cas, vous avez l'intention de faire pour calmer la situation, pour en tout cas apaiser cette situation?
Justement, après ces événements malheureux qui étaient arrivés, il y avait une mission de haut niveau du ministère de l'Intérieur et du HCR qui était venue. Nous avons discuté par rapport à ces questions de DSR, de traitement des dossiers. Le HCR s'est engagé à recruter 3 agents supplémentaires pour renforcer la capacité en personnel de la DREC et avancer dans le traitement. Et nous pensons qu'avec cet appui en personnel, en 2-3 mois, nous pouvons vider tous les dossiers des demandeurs d'asile à Agadez. Et d'ores et déjà, le HCR a mis en place un plan de relocalisation. Aussitôt, le lendemain des manifestations, il y a une vague de 83 personnes qui ont été relocalisées à Hamdallah. Il y a une semaine, il y a une vague de 86 qui sont partis. Et c'est selon ce plan-là. D'ici la fin du mois d'avril, tous les demandeurs d'asile d'Agadez ou réfugiés seront relocalisés ailleurs.
C'est une bonne nouvelle, monsieur Issa, pour vous. Oui, Hamza, qu'est-ce que le HCR continuera de faire pour garder un climat de sérénité et de compréhension?
Le DREC vient déjà de dire la planification sur laquelle nous avons déjà commencé à travailler. À partir donc des événements à maintenant, donc il y a eu deux convois qui sont déjà partis et le plan est en place et il va se poursuivre. Mais il y a une chose, c'est-à-dire en termes de perspective, quelque chose, on ne peut pas enlever à cette ville, à cette région que c'est un lieu de passage, c'est un carrefour. C'est-à-dire, on a beau évacuer les personnes, il y en aura toujours d'autres de nouveaux qui vont arriver. Et c'est ça que je considère qu'il y a lieu d'être vraiment très réaliste, très pragmatique. On doit pouvoir effectivement, avec, en fonction des priorités de l'État, réorienter, parce que nous n'avons de priorités que celles que l'État nous cadre et celles qui sont possibles en accord avec la communauté aussi locale. Nous étions venus ici pour faciliter à l'État du Niger, appuyer l'État du Niger de la prise en charge des flux migratoires qui passent par cette région. Peut-être que notre arrivée a rendu certains flux plus visibles. Ce n'est pas que les gens ne passaient pas autant que cela. Il fut un temps où les flux étaient encore plus importants que cela. Voilà. Donc nous sommes dans la logique de continuer, tant que l'État voudra qu'on l'appuie sur cette activité, d'appuyer sur cette question de flux, d'identifier toujours dans ce flux les potentiels demandeurs d'asile et de pouvoir les référer pour examen et appréciation de la Commission nationale d'éligibilité. Nous n'avons de priorité que celle-là, mais nous allons bien sûr nous adapter au contexte local. Nous le faisons, mais les circonstances qui arrivent en fonction, nous allons toujours échanger, et c'est cela qui est en train d'être fait avec l'État qui est le principal partenaire, avec la communauté, pour pouvoir maintenant asseoir et réorienter les activités pour qu'elles s'impliquent, qu'elles restent dans le cadre du respect des habitudes de cette communauté, qu'elles garantissent la quiétude de Merci. Cette communauté et qu'elles garantissent aussi la protection pour nos bénéficiaires.
Merci beaucoup à tous et nous sommes au terme du forum d'aujourd'hui qui portait sur le thème les difficultés et solutions relatives au traitement du cas des demandeurs d'asile à Agadez.
Nous retenons que la question des demandeurs d'asile est un sujet délicat auquel différents acteurs s'attellent pour y apporter une solution. Il ressort de nos échanges que d'ores et déjà des mesures sont prises du côté des autorités nationales, mais aussi de la représentation du HCR pour accélérer non seulement le processus de traitement des dossiers des demandeurs d'asile, mais également de leur relocalisation hors d'Agadez.
Nous étions en compagnie de nos invités Insar Abdrahman, coordinateur régional du cadre d'action pour la défense des droits humains, et Hamza Abdul Azizou, associé principal à la protection à la sous-délégation du HCR Agadez, et Yacouba Soukei Rajou, qui est directeur régional de l'état civil et chargé des migrations. Merci à tous d'avoir été des nôtres durant ces quelques minutes pour échanger sur cette thématique. Pour la présentation, c'est moi, Alassane Kouzi Mahamadou. Merci.